VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Un débat crucial entre 6 candidats démocrates aura lieu ce soir à Las Vegas, dans le Nevada, où sera organisé samedi le troisième vote des primaires. Parmi eux, un candidat inattendu, le milliardaire Mike Bloomberg, ancien maire de New York, Abdurrahman Diaw.
Fort d'une poussée dans les sondages, Michael Bloomberg a rempli les critères établis par le Parti démocrate pour participer au débat. Mais ses rivaux, Bernie Sanders en tête, ne lui feront pas de cadeau. Chez Bloomberg, comme n'importe qui a le droit de se présenter à la présidentielle, il n'a pas le droit d'acheter la présidence, a tweeté lundi Bernie Sanders. 9e homme le plus riche de la planète en 2019, Michael Bloomberg a, en s'appuyant sur ses quelques 60 milliards de fortune, secoué la campagne démocrate. Il a fait le pari d'une entrée tardive dans la course, mais a compensé son retard avec déjà plus de 300 millions de dollars d'investissement en spots publicitaires qui tournent en boucle sur les chaînes télévisées et sur Internet. L'avalanche publicitaire du candidat de 78 ans a déjà eu un impact frappant. Il a grimpé à la 3e place de la moyenne des sondages nationaux.
Législative en Iran, la participation à ces élections de vendredi sera particulièrement scrutée tant par les opposants au régime qui appellent au boycott que par les autorités qui espèrent une mobilisation massive pour asseoir leur légitimité après des mois de contestation. Le pluralisme du scrutin est déjà critiqué par de nombreux opposants après la disqualification de plus de 7000 candidats, principalement issus de la mouvance modérée et réformatrice, une décision qui s'inscrit dans un contexte déjà électrique après la vague de contestation provoquée en Iran en novembre par une hausse des prix de l'essence et maquée dans le sang des prisons iraniennes jusqu'à la diaspora. Les appels au boycott du scrutin se multiplient. La Chine a jugé aujourd'hui inacceptable les nouvelles règles imposées par Washington aux médias publics chinois aux États-Unis, désormais assimilés à des missions diplomatiques car considérées comme des organes de propagande. 5 médias, dont l'agence de presse Chine Nouvelle et la télévision publique anglophone CGTN, vont maintenant devoir obtenir l'approbation du département d'État américain pour acheter des propriétés aux États-Unis. Ils devront aussi fournir des listes de tous leurs employés, y compris les Américains, selon des responsables du département d'État. Aucune restriction ne sera en revanche appliquée aux activités journalistiques chinoises sur le sol américain. Le bilan de l'épidémie à coronavirus a dépassé aujourd'hui les 2000 morts, mais l'OMS a mis en garde contre toute mesure disproportionnée, citant une étude montrant que plus de 80% des patients souffraient d'une forme bénigne de la maladie. Et au Japon, des passagers du Diamond Princess, où plus de 540 cas de contamination au coronavirus ont été constatés, ont commencé à quitter le paquebot aujourd'hui même, après 14 jours de quarantaine au Japon.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Actualité sur le continent africain. Au Tchad, le ministre de la Justice a relevé hier la recrudescence des attaques menées de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Il a aussi estimé que la réponse militaire ne peut être la seule. John Lindon.
Je pense que la réponse militaire à elle seule n'est pas suffisante, a affirmé hier le ministre Djimet Arab. Il faut aussi avoir une réponse sociale, a-t-il ajouté, car selon lui, à la base de toutes ces actions, il y a d'abord la pauvreté. La multiplication des attaques a été confirmée par Ahmad Mohamed Hindi, conseiller à la sécurité du gouverneur de la province du lac, qu'il impute à la montée des eaux du bassin, assurant qu'à la période de décrue, les éléments de Boko Haram se replieront sur les îles. Selon lui, les éléments de Boko Haram se servent des petites pirogues sans moteur appelées communément teke-teke, se déguisent en pêcheurs rendant la traque plus difficile. Début janvier, l'ensemble des 1200 militaires tchadiens déployés au Nigeria étaient ramenés au pays pour être redéployés autour du lac Tchad. Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme présentait hier son rapport sur les désengagés ou anciens membres de Boko Haram. Cette ONG relève que 54% des 4200 personnes désengagées sont des femmes et que près de 70% d'entre elles ont des difficultés pour se loger et se nourrir.
Au Cameroun, les autorités affirment avoir ouvert des enquêtes sur les incidents de vendredi dernier dans le village de Ngabou, dans le nord-ouest du pays. Les Nations Unies parlent de plus d'une vingtaine de civils tués et réclament une enquête indépendante et impartiale. L'armée camerounaise, elle, parle d'accidents malheureux. Bagassi Koura a joint à Yaoundé le capitaine de frégate Cyril Atonfak Guémo, le chef de la division de la communication du ministère camerounais de la Défense.
Ce qui s'est passé le 14 février à Dargou, c'est que les forces de défense et de sécurité, en mission de restauration de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans cette zone-là précisément, avaient eu le renseignement sûr et certain de ce que une des maisons d'habitation bien ciblée de la localité de Dargou était devenue le nouveau centre opérationnel fortifié des terroristes sécessionnistes. Alors, le détachement militaire à l'approche de la maison a été violemment pris à partie par des guetteurs au cours des combats très violents. Un des réservoirs de carburant frelaté de contrebande abritait aussi la maison, mais on ne pouvait pas le savoir, a pris feu, a été touché, ce qui a déclenché un incendie suivi d'une forte explosion et les flammes ont embrasé la maison, d'où des corps calcinés. Le détachement des forces de défense et sécurité a neutralisé cette terroriste. Le bilan de cette séquence est maintenu à 4 enfants décédés plus une femme, côté civil, et à 7 terroristes neutralisés. Et le ministère de la Défense, le ministre de la Guerre, le président chargé de la Défense, a ordonné que des investigations se poursuivent et qu'elles soient complétées par une enquête mixte de la Gendarmerie nationale et de la division de la sécurité militaire.
Alors, les Nations Unies demandent que l'enquête soit faite, ce que vous avez dit qui est en train d'être fait. Est-ce que ces résultats seront rendus publics?
D'abord, le Cameroun n'a pas attendu que les Nations Unies demandent que des enquêtes soient faites. Le Cameroun, c'est un pays libre, c'est un État indépendant, c'est un État souverain. Et ces enquêtes sont des enquêtes procédurales. C'est toujours ce qui est fait en de pareilles circonstances. Nous sommes un pays engagé depuis quelques années sur 4 fronts. Sur la façade maritime, où nous combattons avec beaucoup de vigueur et de réussite, la piraterie maritime. À la frontière est du pays, où nous combattons le banditisme transfrontalier. À l'extrême nord du Cameroun, où nous combattons depuis plusieurs années la secte islamiste terroriste Boko Haram. Et malheureusement aussi à l'intérieur dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que chaque fois qu'un problème s'est passé sur le front, des enquêtes ont été diligentées à l'échelle nationale dans le respect des procédures réglementaires, dans le respect des règles de la guerre, dans le respect du droit international humanitaire et dans le respect des règles d'engagement.
Dans le second communiqué, on parle de propagande. Est-ce que vous accusez aussi certains groupes d'avoir fait de la récupération?
Nous les accusons avec certitude. Nous avons des groupes nationaux qui ont versé dans la collaboration avec l'étranger pour déstabiliser l'État camerounais. Ils sont connus, je ne les citerai pas. Nous avons des multinationales étrangères qui ont le regard fixé sur les ressources halieutiques, minérales et minières du Cameroun. Nous avons un certain nombre d'intérêts étrangers qui voudraient, n'est-ce pas, disloquer le Cameroun pour mieux exploiter ses richesses.
Le capitaine de frégate Cyril Atonfak Guémo, le chef de la division de la communication du ministère de la Défense du Cameroun. Un bataillon de l'armée malienne comprenant d'anciens rebelles et d'ex-miliciens pro-gouvernementaux a pris ses quartiers hier à Tombouctou, dans le nord du Mali. 5 jours après le retour de l'armée nouvelle formule à Kidal, d'où elle était absente depuis des années. Contrairement à Kidal, ville symbole où l'armée malienne avait connu une débâcle en 2014, les forces armées maliennes, les FAMA, étaient déjà présentes à Tombouctou, mythique carrefour du commerce saharien, dont les mausolées consacrés à ces 333 saints musulmans ont été partiellement détruits en 2012 par les djihadistes, puis reconstruits grâce à l'UNESCO. Le gouvernement libyen d'Union nationale basé dans la capitale est reconnu par l'ONU, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi la suspension de sa participation aux travaux d'une commission conjointe militaire à Genève sous l'égide de l'ONU à la suite de violations répétées de la trêve. Nous annonçons la suspension de notre participation au pourparlers militaire jusqu'à ce que des positions fermes ne soient adoptées à l'encontre des forces de Khalifa Haftar et ses violations de la trêve, a indiqué le GNA dans un communiqué. Et puis le parti au pouvoir au Lesotho a lancé un ultimatum au Premier ministre pour qu'il démissionne d'ici jeudi, alors que sa femme comparaissait dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de sa rivale, ex-épouse du chef du gouvernement. La femme de Thomas Taban, Meseya Taban, 42 ans, a été brièvement interrogée sur le meurtre de la précédente épouse du Premier ministre, Lipolelo Taban, tuée par balle 2 jours avant la prestation de serment du chef du gouvernement. Elle a déjà été inculpée pour ce meurtre. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.